dans la Divine Comédie, Dante dit que sur la porte des enfers est inscrite une sombre annonce « Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance ». Alors, cela me semble parfaitement exact. Ne pas avoir d'espérance, c'est vivre en enfer. Or, il paraît que notre jeunesse serait un petit peu découragée sur les bords, que les populations de nos pays occidentaux seraient désespérées, en perte de souffle, en perte de quelque chose qui les porte, un idéal, une espérance qui les porte. Et effectivement, c'est assez compliqué, parce que cela rejaillit sur le moral des individus avec beaucoup de souffrances et même des morts. Cela rejaillit sur le moral des peuples. Et cela a des conséquences très pratiques, y compris dans l'ambiance qui règne dans nos sociétés. Car une personne qui est en manque d'espoir, en manque même d'espérance, devient plus crispée, devient plus individualiste, se recroqueville sur soi-même, et puis elle a du mal, en fait, à réfléchir avec lucidité, et puis elle a du mal, donc, à être dans un bon développement, dans un cheminement, parce qu'il n'y a pas d'horizon à son espérance. Alors, comment avancer ? Eh bien, c'est la question qui m'a été posée par un groupe qui me demandait comment réenchanter nos vies, comment réenchanter le monde. Alors, pour ça, il me semble utile, effectivement, d'observer, de compatir, de réfléchir, de prier, et puis d'en parler entre nous, comme nous le faisons ici, en fait, dimanche après dimanche, comme nous le faisons avec les enfants. Effectivement, je pense que c'est là un reprendre pied pour se préparer à avancer. Mais c'est pas, ça ne date pas d'hier, c'est ce que propose aussi Ésaïe dans le texte que je vous propose. Ésaïe, parlant à son peuple, à une époque où ils ont été déportés à Babylone pour une partie du peuple, et où ils sont donc dans une situation catastrophique, sur tous les plans. Peut-être pas matériel, mais ils sont en perte d'identité, ils sont en perte de foi, et ça va donner, effectivement, après Ésaïe, un sursaut, effectivement, de foi, d'espérance pour ce peuple. Alors Ésaïe commence son livre, parce qu'en fait c'est le second Ésaïe, le premier Ésaïe, c'était 200 ans avant l'Ésaïe dont nous parlons ici, au début du chapitre 40 de ce grand recueil qui rassemble en fait trois livres de trois prophètes successifs. Là, c'est le second Ésaïe qui commence son livre, qu'on appelle le livre de la consolation d'Israël, au chapitre 40, avec une impressionnante tirade de l'Éternel qui nous adresse une vocation. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, que sa faute est graciée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert, « Ouvrez le chemin de l'Éternel !» Alors c'est le premier pas dans la consolation, avec ce cri, « Consolez, consolez mon peuple !» Donc le premier pas dans la consolation, c'est de chercher à consoler les autres. Alors c'est ce que reprend cette fameuse prière franciscaine, « Seigneur, fais de moi un artisan de paix, que je ne cherche pas tant à être consolé moi-même qu'à consoler les autres. » Et effectivement, je crois qu'il n'y a rien de tel pour se consoler soi-même que d'essayer de faire du bien aux autres. Alors cela met les sagesses paysannes, je pense, de tous les peuples de la terre l'ont bien noté. Par exemple, il y a cette sagesse paysanne qui dit « Si tu veux moissonner du bonheur dans ton champ, va semer du bonheur dans le champ du voisin. Et c'est ce qu'on en trouve effectivement ici. C'est souvent une opération gagnant-gagnant, même pour Jésus, auquel ça n'a pas tellement porté chance, si je puis dire, de s'occuper du bonheur de l'humanité, et bien quand même. Au moment où il essaye de transmettre le flambeau à ses disciples, il témoigne de sa joie aboutie dans ses derniers entretiens avec ses disciples dans les chapitres 14, 15 de l'Évangile selon Jean. Alors à qui est-ce que Dieu s'adresse ainsi quand il dit « Consolez, consolez mon peuple » ? À qui est-ce qu'il s'adresse avec cette vocation ? Alors comme souvent dans Ésaïe, c'était déjà le cas en Ésaïe 6, quand Dieu appelle le prophète à sa vocation, Dieu parle à la cantonade. À qui voudra bien se sentir concerné ? Et qui pourrait être concerné par cet appel de l'Éternel ? Si ce n'est à ceux qui, dans une certaine mesure, sont à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute de ce que Dieu cherche pour le monde. Et effectivement, personne ne répondra à cette vocation à notre place, nous qui écoutons l'appel de Dieu. Alors ce terme de consolation, en hébreu c'est « naham », signifie beaucoup plus que remonter le moral de la personne. C'est plus complet, c'est plus global. C'est faire que la personne soit en forme dans toutes les dimensions de son être. Et on sait bien, effectivement, que l'humain est une personne complexe, qu'il suffit d'avoir ne serait-ce que mal à une dent pour que tout notre moral vole en éclats et que quand notre moral est bon, tout le corps va mieux se porter. Donc, c'est les différentes dimensions de l'humain, aussi bien du corps que de l'intelligence, que de l'espérance, que de la foi. Bien sûr, le spirituel est compris dans ce « consoler mon peuple ». Alors le redoublement « consoler, consoler » dit que c'est une tâche prioritaire, c'est une insistance, pour dire que c'est une tâche essentielle, urgente, que c'est la base de la base de tout ce qu'on peut espérer ensuite. Et puis, c'est une prière, en fait, que Dieu nous adresse. C'est une supplication pour que nous puissions faire le job. Alors évidemment, c'est un appel qui est adressé à nous en particulier, à nous qui sommes chrétiens, bien sûr. Ça fait partie de notre vocation qui nous est adressée. Alors ensuite, Ésaïe passe immédiatement à une étape première, fondamentale, préalable à tout ce qu'il va dire par la suite dans cette démarche qu'il propose au chapitre 40. Le début, le cœur du cœur, c'est d'annoncer la grâce de Dieu. C'est de parler au cœur de la ville, au cœur de Jérusalem. Et c'est s'adresser donc au cœur de la personne, au cœur des gens, au cœur de notre peuple, pour leur dire, à notre façon, que Dieu n'est que grâce, n'est que pardon, n'est que bienveillance, et que vraiment Dieu fait du bien à l'homme, à la femme, aux enfants. Que cette grâce de Dieu, au lieu de nous enfermer, comme on pense souvent que la religion produit, au contraire, cette grâce de Dieu est vraiment libérante. Elle nous encourage à avancer, à faire comme nous pourrons. C'est ainsi, nous dit Ésaïe, que nous pourrons, par cette annonce de la grâce de Dieu, préparer un chemin pour Dieu dans notre humanité qui n'est pas très, très en forme. Et que nous pourrons ainsi écarter les montagnes et les collines, c'est-à-dire rabaisser les vaines adorations qui aliènent le peuple, qui aliènent ceux que nous aimons. C'est ainsi que nous comblerons les nids de poules, les failles, les fractures qui entravent le cheminement de l'esprit, la circulation de l'esprit dans bien des cœurs, dans bien des vies. Alors ensuite, Ésaïe nous dit qu'une voix nous dit « Crie !» Et nous répondons « Que crierai-je ?» Alors il y a là une excellente question. Nous avons entendu cet appel à consoler notre vocation, mais comment faire ? Quel problème, en fait, vient obstruer ce cheminement vers un réenchantement ? Eh bien, c'est le temps de l'écoute, du discernement, de la compassion. C'est le temps de notre réflexion et de notre prière à nous, serviteurs de l'Éternel, pour chercher ce que nous allons pouvoir faire pour effectivement avancer et faire avancer. Alors Ésaïe nous donne alors plusieurs drames qui affligent le cœur de l'humain et qui vont nous demander un travail pour consoler donc l'humain. Le premier, c'est cette voix, donc c'est le premier que souligne Ésaïe après avoir dit que crie et on répond que crierai-je. On pourrait répondre avec cette interrogation, toute chair est comme l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Et donc le premier cri, la première vigilance, la première consolation à apporter, c'est que toute chair est comme l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. C'est-à-dire que l'existence humaine en ce monde, elle est brève. Elle est un temps de croissance, un temps de joie, de beauté, mais rapidement, elle est un temps de diminution, un temps d'assèchement, un temps d'effacement. Alors cela peut provoquer effectivement cette trajectoire de l'humain, ça peut provoquer des sentiments désabusés. S'il en est ainsi, à quoi bon faire un enfant, si c'est de toute façon pour le préparer à mourir bientôt ? À quoi bon éduquer ? À quoi bon aider les gens ? À quoi bon aider, soutenir, soigner, se soigner soi-même, si de toute façon le combat est perdu d'avance ? Il n'est pas perdu, ce combat, nous dit Ésaïe, nous dit le prophète, nous dit l'Esprit, en réalité, au fond de nous. Et c'est justement ça qu'il faut relever, qu'il faut remettre en valeur. Et cela n'a rien d'abstrait, effectivement, ce remontage d'esprit, de morale, de visée. Ce n'est pas un simple poème pieusard pour nous rassurer face à la fragilité de nos corps. Je pense même, en réalité, que toute personne qui regarde un peu en elle-même, au fond d'elle-même, sent que cela est vrai, que le combat n'est pas perdu. C'est sentir au fond de soi-même que notre existence a un prix infini et qu'elle peut avoir du sens, qu'on peut lui trouver un vrai sens. C'est trouver un émerveillement, c'est trouver une joie même dans les moments les plus rudes de notre existence. C'est se sentir intérieurement libre, libre de penser, libre d'aimer, d'espérer, même si on est enfermé dans des barreaux de fer ou dans une terrible situation de détresse. Alors j'ose à peine dire cela, moi qui n'ai rien en fait subi de terrible dans mon existence, rien de vraiment grave. Aussi m'appuierai-je sur le témoignage d'un homme, témoignage qui lui a valu le prix Nobel de littérature, en passant, c'est Imre Kertész, qui est un Hongrois juif, qui a connu une des pires situations parce qu'il s'est fait arrêter à 15 ans et il s'est retrouvé seul dans Auschwitz, dans Buchenwald. Et il témoigne dans ce livre « Être sans destin » que vous pouvez tout à fait lire parce que je crois que c'est presque le seul livre d'Imre Kertész qui est bien lisible, si je puis dire. Et il témoigne de moments de grâce, de moments de beauté, de joie de vivre, de vie belle, même dans ces moments-là, Je pense qu'il n'y a rien de pire que cela. Il évoque un trognon de pomme. Il évoque la présence d'un ami à ses côtés pour se soutenir mutuellement. Il évoque, incroyable, la douceur d'une belle soirée, d'un coucher de soleil sur la campagne à Auschwitz, après une journée de travail épouvantable et d'une pitance absolument ridicule. Il témoigne d'un moment où son sens de l'humour lui permet de trouver qu'un SS maniant sa matraque ressemble à quelqu'un qui manipule un rouleau à pâtisserie. Et ça le fait sourire intérieurement. Donc vous voyez la parole de Dieu qui demeure en nous et qui demeure même pour toujours, c'est cela, c'est cette étincelle de vie. Mais c'est même plus que ça. C'est le fait que rien n'est jamais bouclé dans l'existence humaine, qu'il existe dans toute personne humaine, en notre être, une telle richesse que des espaces entiers peuvent encore s'ouvrir, des espaces d'une beauté inouïe peuvent s'ouvrir encore à l'intérieur de notre être, que l'humanité est d'une telle richesse. C'est donc exponentiel, parce que cette richesse de chaque humain, multipliée par tous les humains, fait que les ressources de l'humanité sont absolument infinies pour inventer encore une meilleure vie, que le meilleur est toujours, reste toujours possible, et que ça peut venir comme par surprise. Donc la parole de Dieu, c'est cette dynamique. Dynamique que l'on reçoit à l'intérieur de nous-mêmes. Alors ensuite, Ésaïe passe à une seconde difficulté plombant le moral de l'humain. Monte sur une haute montagne, Sion, messagère de bonheur. Voici votre Dieu, il fait paître son troupeau. De son bras, il rassemblera les agneaux, il les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. Alors le second drame qui afflige l'humain, c'est le sentiment de ne pas être à la hauteur. Alors c'est assez normal parce que l'humain a, par cette parole de Dieu qui réside en lui, comme une aspiration à l'infini. Et ça fait partie de notre nature, donc en partie divine. Alors c'est extraordinaire, mais évidemment, nous ne sommes pas Dieu. Et donc ça nous place en porte-à-faux entre nos aspirations divines, transcendantes, infinies, et puis notre réalité beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus limitée. Les événements de notre vie aussi, avec les petits accrochages, avec l'actualité du monde, peuvent renforcer ce sentiment que l'humanité, que notre humanité est finalement assez mauvaise. Et c'est ainsi que notre seconde grande mélancolie, c'est ce sentiment d'être insuffisant et quelque part d'être coupable. On parle du syndrome de l'imposteur. On ne se sent pas qualifié alors que des signes nous disent que nous serions effectivement qualifiés pour être debout, faire des belles choses. Alors, face à cela, face à ce sentiment sourd, finalement, eh bien, Ésaïe nous encourage à être des messagers de bonheur et de bien, d'annoncer, de manifester que Dieu réagit à sa façon à ce que nous sommes aujourd'hui et que sa réaction n'est absolument pas un châtiment. Elle est comme un soin amoureux d'un berger pour ses agneaux. Il nous porte dans son sein et puis il nous allaite, c'est-à-dire qu'il nous aide à grandir. Voilà. Si nous sommes petits, eh bien Dieu va travailler à nous faire grandir, c'est tout. Et donc non, nous ne sommes pas d'horribles coupables, nuls, c'est l'inverse. Nous sommes une personne promise à grandir et digne des meilleurs soins. Alors après cette étape, seconde étape, suit un long et magnifique développement d'Ésaïe sur la transcendance de Dieu. Alors je ne vais vous en lire qu'un court extrait, même s'il vaudrait la peine d'être lu en entier, vous le trouverez dans votre Bible, ou je le mettrai aussi sur Internet suite à cette prédication. Mais je vous en lis quelques lignes. À qui voulez-vous comparer Dieu ? Quelle représentation dresserez-vous de lui ? C'est un artisan qui fond la statue, c'est un orfèvre qui la couvre d'or. Levez les yeux en haut et regardez vers le ciel. Qui a créé toutes ces choses ? Donc, c'est-à-dire que Dieu est d'un tout autre ordre que ce que dit la rumeur publique, les théologies, les théories sur Dieu. C'est un appel d'Ésaïe à ce que nous fassions plus de théologie, que tous et toutes nous fassions plus de théologie et que nous la fassions de deux façons. D'abord, c'est une théologie expérimentale. Levez les yeux et regardez, s'écrit Ésaïe. Laissez-vous toucher par l'émerveillement. Et puis comparez avec les représentations de Dieu que font les humains, en or, en argent, en bois. C'est donc un double appel, un appel à l'émerveillement, à l'intérieur de nous et puis dans l'univers, et un appel aussi à relire les théologiens, les penseurs, les philosophes, les poètes, 6000 ans de patrimoine extraordinaire. Les humains sont effectivement d'habiles artisans, nous dit Ésaïe. Il y a là des trésors, un patrimoine que les vers n'atteignent pas, qui ne pourrissent pas. Il faut simplement ne pas confondre avec la transcendance de Dieu qui est à vivre, qui est à expérimenter, qui est sujet d'émerveillement, mais il peut y avoir les deux ensemble, les deux mis en regard, comme nous le propose Ésaïe. Et je pense qu'une des grandes sources de désespoir en ce monde actuellement, c'est donc le troisième drame de notre humanité désespérée. Ça me semble être quand les personnes n'ont plus ni de recherche de Dieu, le fait de lever le regard vers le ciel, comme le proposait Ésaïe, ni un minimum de culture, point de lecture du patrimoine de la pensée humaine, ni l'un ni l'autre. Il faudrait au moins avoir un des deux. Et si c'est possible, les deux ensemble en regard, comme le propose Ésaïe. Et quand on n'a ni l'un ni l'autre, ça enferme chacun dans son horizon restreint, tout petit horizon, tout en étant fatalement persuadé de détenir la vérité. Mais cette vérité est souvent un désespoir. Alors voilà ce que dit ensuite Ésaïe. Pourquoi dis-tu Jacob ? Pourquoi répètes-tu Israël ? Ma destinée est cachée à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu à mon Dieu. Ne l'as-tu pas reconnu ? Ne l'as-tu pas entendu ? C'est le Dieu d'éternité, c'est l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est à bout. Les adolescents, bien sûr, se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Donc cette déception, c'est que Dieu serait indifférent à notre sort. C'est la légende d'un Dieu qui porte chance, qui est vendu par bien des religions, bien des astrologues. Elle est source d'immenses déceptions, cette théorie. Elle est source d'aliénation. Elle est source de perte de foi, justement, quand la vie nous frappe par un drame. Eh bien, Dieu n'est pas du tout indifférent à notre sort. Dieu travaille, ou il espère travailler, mais comment ? Il travaille au plus profond de chaque personne, pour lui donner de la force, pour lui donner une nouvelle jeunesse, pour lui donner une vue à hauteur d'aigle qui permet de discerner les tenants et les aboutissants et de pouvoir discerner notre propre chemin dans ce monde. Tel est notre Dieu, le Dieu sur lequel nous pouvons compter fermement. Et c'est une expérience de milliards de croyants partout dans le monde depuis, j'allais dire, 100 000 ans. Notre vocation nous appelle à avoir comme priorité de réconcilier en vérité les humains avec ce Dieu et que les personnes soient effectivement consolées. Non pas consolées par nos belles paroles, non pas consolées par nos silences, même si c'est une belle écoute, mais consolées par Dieu lui-même. Alors cette consolation à l'intérieur de nous, cette consolation que nous sommes chargés d'apporter, c'est ce dont témoigne l'extraordinaire Eti Hilsum. Elle aussi, dans les horreurs nazies, mais c'était en Hollande, dans sa prière d'un dimanche matin, qui est assez connue, que je vous mettrai aussi sur Internet, mais sinon vous pourrez effectivement vous procurer ce livre qui est tout à fait touchant. Voilà cette prière donc d'un dimanche matin sur lequel je terminerai. Ce sont des temps d'effroi, mon Dieu. Cette nuit, pour la première fois, je suis resté éveillé dans le noir, les yeux brûlants, les images de souffrances humaines défilant sans arrêt devant moi. Donc elle est dans un camp de transit pour aller partir vers les camps de concentration. Je vais te promettre une chose maintenant, ô mon Dieu. Ô une broutille, je me garderai de suspendre au jour présent, comme autant de poids, les angoisses que m'inspire l'avenir. Alors oui, cela me demande un certain entraînement. Alors pour l'instant, à chaque jour suffit sa peine. Je vais t'aider, ô mon Dieu, pour une chose, à ne pas t'éteindre en moi. Mais je ne puis rien te promettre, rien te garantir d'avance. Une chose cependant m'apparaît de plus en plus claire. Ce n'est pas toi, mon Dieu, qui peux nous aider dans ces circonstances, mais c'est nous qui pouvons t'aider. Et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. C'est tout ce qu'il nous est possible de sauver en cette époque. Et c'est aussi la seule chose qui compte, un peu de toi en nous, mon Dieu. Peut-être pourrons-nous aussi contribuer à te mettre au jour dans les cœurs martyrisés des autres. Oui, mon Dieu, tu sembles effectivement assez peu capable de modifier les situations finalement indissociables de cette vie humaine. Je ne t'en demande pas compte. C'est toi, au contraire, mon Dieu, qui nous appelle à rendre compte un jour. Amen.